Chapitre 8. Partir par curiosité, gage d'un esprit acéré. Partir pour contrôler ce qui s'est dit un peu plus loin, là-bas. Partir sans grandes illusions. Chacun sait qu'ici comme ailleurs, les vérités sont les mêmes. Pas plus d'issue pour diluer ses angoisses, guère de différence pour ranger ses idées. Parfois la chance sourit davantage. Parfois une politique, moins liberticide, préserve l'orgueil et l'indépendance du voyageur. Besoin de l'heure pour avancer d'un pas, franchir monts et merveilles, folâtrer près des sources, s'imaginer le monde doux comme un lac au soleil, où l'onde ne se trouble qu'au passage des ombres qui laissent traîner leurs ombres. Quant au reste, l'équilibre recherché, le trésor à découvrir, la leçon à prendre, à comprendre, à recevoir, rien ne dit que notre position géographique y soit pour quelque chose. J'en étais là, un peu fier de mes réflexions. Gros fa va. Sur la route qui mène de l'Atlantique au Pacifique. Un peu mieux, moins oppressé par mon devenir, moins offensé par la vie, libre un peu. Trop occupé à observer l'herbe qui pousse et reprend ses droits après un hiver jugé trop long pour penser à bâtir un temple où j'aurai enfin une place. Ériger mes pensées nourries d'incertitude, interroger les jours frileux, réchauffer mes neurones fatigués, usés. Oublier pour le compte les actes imbéciles, désordonnés qui m'avaient ravi mon temps imparti. J'avais bien trop à ne rien faire sans mourir d'ennui pour m'agiter le bocal, croire en continu aux chimères corruptrices, aux jouissances qui nous éclatent le raisonnable sans pour autant nous rendre heureux. J'avais un château de cartes à construire, reconstruire. Trop à faire à me regarder vivre jusqu'à me trouver mieux à défaut d'être un homme bien. Mes pas s'étaient raccourcis, fini les grandes enjambées. La traversée du Canada d'est en ouest s'était imposée. Aucune raison particulière, une simple envie. La seule évidence était de la faire en stop. Mes moyens me permettaient tous les types de transports confortables, onéreux, sécurisés, mais j'avais trouvé là de bonnes raisons pour chasser le biscornu des choses établies comme leur prévisibilité. Faire l'exact contraire de l'attendu, c'était barrer la route aux rencontres probables et sans surprise que peut donner l'aisance. L'essentiel d'un voyage devait tenir dans l'inopiné, le dérangeant, l'improvisé, m'étais-je dit. À Thunder Bay, dans l'Ontario, est érigée une statue de belle taille en l'honneur de Terry Fox, héros canadien atteint d'un cancer. N'ayant plus qu'une seule guibole pour support, il s'attaqua à la transcanadienne en courant, l'équivalent d'un marathon par jour. L'homme dut se résigner à l'abandon au 143e jour. Son courage, sa motivation ne suffirent pas à plier, à ranger pour un temps la maladie sous la gouvernance de sa volonté. Ce qui le rongeait mura sa course. Mais l'obstacle ne l'avait pas empêché de donner le meilleur de lui-même. Terry Fox souhaitait lever des fonds pour le cancer. L'histoire fit que depuis son décès, des millions de dollars furent versés à la recherche. Le meilleur de lui-même. Devant le monument dédié à cet homme, je sentis qu'à mon tour, il était peut-être venu le temps de me prouver que, finalement, en grattant, un vent frais, léger comme un souffle d'amoureuse, pourrait enfin se lever. Comme la confirmation d'un pressenti depuis le renoncement des jumelles. Les autres existaient. Les autres pouvaient avoir de l'intérêt. Ils avaient parfois de l'importance. Ils n'étaient pas des objets usuels dont on se sert au gré de ses pouvoirs. Les autres. Ça sortait de ma bouche, fluide, et ça sonnait bien. Les autres. Les paroles de ma destinée étaient prononcées. Donner sans recevoir. Rien, ni retour, ni compliment, lettre de château. Ils avaient le truc qui me manquait. Ceux qu'autrefois je méprisais avaient le don de vivre, le bonheur, là. Alors, Terry Fox, tu ressens quoi? As-tu autre chose à me dire? Sans aucun doute. Je garde ton regard pour les jours de spleen. Je me tremperai dans le Pacifique, promis. Je ne ferai plus semblant de dire des choses importantes et, curieusement, je le sais, je le sens, les gens m'écouteront avec davantage d'attention. Je ne verrai plus leurs yeux détaillant leur pompe, leur stress qu'ils ne peuvent pas cacher, leur désir de me baffer, leur incompréhension, leurs arguments sommaires, leurs propos qu'ils souhaitent doctes quand ils ne sont que la palissade, leurs efforts pour me plaire et tous ces faux-semblants institués par la pyramide. Ils ne s'affaissent toujours pas, bien au contraire. Ils se hiérarchisent davantage. Ma place sera le présupposé qui pousse un peu à la commisération des conducteurs. Ils me chargent, se chargent de m'avancer comme ils disent. Dans tous les cas, j'incarnerai. Je ne veux rien vous promettre. Un simple globe-trottard a besoin d'aller plus loin quand un simple conducteur a besoin de ne plus s'ennuyer avec lui-même et parfois de rendre service. Ils se sentent mieux à moindre frais. La conversation pourra commencer. Ainsi délivré du maniérisme, des phrases aussi précieuses que ridicules, je sentirai alors l'intérêt qu'il me porte. 10-12 miles, et nous parlerons de nos secrets sans aucune pudeur. Ce sera tellement plus facile de se confier à un étranger. Encore quelques miles, et nous oublierons une possible guerre d'ego. Pas de compétition, rangez les quéquettes, laissez-les au fond du froc. Au diable vos costumes de super-héros. Chacun devra chercher à ne dominer que son sujet. Si ce n'est pas le cas, stop. Je serai prêt à rêver, à trouver une grandeur à l'humanité. Faudra que je sois bien irréaliste parce que l'histoire ne retient que les bateleurs, les dictateurs, les tyrans. Tous mis au premier rang des manuels. Je crie, j'avale des pierres, une poignée de gravillons, puis je m'époussette le psoriasis. Il recouvre la planète. Elle se fissure, tordue par les douleurs. Après j'oublie. Je tiens à le dire, bien que pour moi il s'agisse d'une évidence, l'absence de chronologie agace parfois le lecteur, mais elle n'est nullement contradictoire avec les allers-retours incessants de nos pensées, de nos émotions. Le foutoir s'impose en continu dans nos souvenirs, mêlant l'improbable, la fiction, la réalité. D'autant qu'avec le temps, ce qui a été vu à l'endroit peut devenir à l'envers. Disons qu'en allant du point A au point B, j'ai oublié d'acheter le pain quotidien. Je dois rebrousser chemin. Était-ce hier ou avant-hier ? Mais surtout, s'agit-il de l'essentiel? Voilà, lecteur impétueux, ne sois pas chafouin, détends-toi, tout n'est pas ordre et discipline, soldat. Un Indien ivre m'avait pris dans son vaisseau amiral, une vieille Pontiac usée à force de caresser le bitume. Elle grinçait des boulons, couinait d'avoir trop vécu, protestait au moindre nid de poule. Elle avançait en donnant l'impression de glisser depuis toujours sur sa lancée. Que rien ni personne ne s'aviserait de freiner sa course, d'interrompre sa fuite molle. À l'intérieur, ça puait, fort. Le dégueulis sec, le pourri, la pisse aussi. Les sièges crasseux, éventrés, fatigués d'usage, exhalaient le mélange d'odeurs à peine supportable. Cela m'avait fait penser aux porcheries industrielles. Je dus garder pour moi un vomi copieux. À la longue, on s'habitue, dit-on, à presque tout. Hélas. Une accumulation de déchets jonchait le sol et la banquette arrière. Des canettes de bière éventrées, des chiffons huileux, des sacs en papier, une clé à molette, du matériel de pêche, tout un méli-mélo de merdouille à haut-le-cœur. Mes pieds brûlaient d'avoir trop avalé de distance, l'inconfort olfactif fut plus facile à vivre. Le bougre était assez bourré, j'avais un mal fou à le comprendre. Son anglais était aussi sommaire que le mien. Il fit des efforts pour me parler en français. Avec les gargouillis des dents du fond, même en tendant l'oreille, c'était pire. Je n'étais pas bien sûr du message. Heureusement, les routes sont droites au pays des érables. À force d'attention, j'avais cru déceler une critique acerbe de la condition autochtone. Soutenu avec complaisance par l'éthanol, il réglait de vieux comptes en bavant des commissures. Dans ses yeux fumait la colère retenue, les revendications sans cesse reformulées, toujours inabouties, les brimades subies, le mépris des merdes blanches. Je fus surpris, mais ça me flattait de ne pas, pour l'heure, quoique merde blanche, être visé. Ici comme ailleurs, il était facile de détester la différence, l'oppresseur ou le profiteur, excepté quand il s'agissait de votre voisin, dont les enfants jouaient avec les vôtres. Mais je comprenais cet homme maltraité, évalué comme quantité négligeable, comme si son mode de vie était une difformité. Les vapeurs de bière dégueu donnaient à sa diatribe un aspect pathos, tout en sentant le vrai, la morsure de l'humiliation. Facile d'imaginer le rouleau compresseur de la Vox Populi qui fait fi des bonnes volontés, n'a qu'un camp sans option, une seule couleur, un seul drapeau. Il m'offrit gîte et couvert, sans doute parce qu'il perçut ma compassion. Peut-être aussi s'ennuyait-il avec ses peines, qu'il souhaitait calmer ses rages avec un étranger compréhensif. D'un signe de tête imperceptible, j'acquiesçai. Téméraire ? Sa demeure était nette, bien rangée, rien à voir avec sa caisse. J'eus un accès illimité au frigo. Il croulait de pisse d'âne, en tout cas, ça en avait la couleur, conditionné en canette. J'eus un accès à l'eau, bien qu'il s'étonnât que l'on puisse s'en servir pour se désaltérer. La nourriture hautement protéinée demandait de solides maxillaires. Viande et poissons séchés pour l'entrée, le plat principal, le dessert, et la bibine pour ne pas s'étrangler. Je restai plusieurs jours à ses côtés, pendant lesquels j'appris, en le regardant faire, son livre de sciences naturelles. Chasseur-cueilleur, l'Indien enseigna à mes mains les touches du vivant, le cœur des âmes. Nous partions à travers la forêt de longues journées où je voyais en moi pousser des sentiments comme une reconnaissance pour cette nature, pourtant rude, qui me voyait naître. Il me donnait les clés de la survie parmi le réel, le regain, l'absolu autonome. Apaisé de silence, enchanté de cris précis, la forêt se livrait pleine et entière, se renouvelait de graine en graine sans le besoin des semenciers. Les écureuils nous scrutaient interloqués par ces curieuses bêtes pour s'en aller bien vite hors de notre portée. Ils avaient bien raison, l'Indien bouffait tout et s'habillait du reste. Mon existence avait enfin de la gueule, je me trouvais à respirer parmi, sans être l'intrus, sans avoir à m'imposer par effraction. C'était apaisant d'oublier mes angoisses au fond des bois. Il m'avait adopté le temps qu'il faudrait, ne semblait pas trouver ma présence ennuyeuse ou pesante. Nous chassions des bêtes à poils que je ne nommerai pas pour ne pas inquiéter leur famille. Pêchions de gros poissons pas encore fumés, ramassions quelques baies, champignons bizarres autant qu'étranges aux effets très particuliers, donnions aux minutes calme et tranquillité. Ce qui est la moindre des choses quand on rentre en contact avec plus fort que soi. Toute résistance finirait par nous dévorer, nous absorber. Vivre ainsi parmi les castors, le reste du livre de cette jungle me tendait un peu les bras, pas suffisamment pour me planter là. D'autant que mon nouvel ami buvait trop, aimait l'ivresse comme on aime une femme garce qui nous fait du mal, mais qu'on ne se résout pas à quitter. S'enfermait dans de longs monologues suivis d'absences comateuses. C'était lourd à plomber nos échanges. Petit à petit, je m'agaçais de plus en plus. Il m'avait pris par l'avant-bras un beau matin, au bon moment. De sa main libre, il m'avait indiqué la route que l'on distinguait à travers les arbres. « Il est temps ». M'avait-il dit. Notre rencontre était arrivée à son terme. Enrichis l'un l'autre, nous n'avions plus rien à nous dire. L'homme qui m'avait fait découvrir en moi le mammifère débrouillard me laissait cependant un zeste d'amertume, la bouche un peu pâteuse, d'en avoir trop dit, sans rien demander. Je perdais un ami possible, si seulement. Un ami qui, comme une racine de cette terre immense, puisait l'essentiel avec élégance. Un ami qui se fondait parmi l'humus, buvait sa peine, mais gardait ses secrets. J'ignorais les origines réelles de son addiction, mais je me plaisais à penser qu'elles étaient la résultante d'une exaspération violente, terreau d'un profond désespoir. Adieu l'ami. Rien n'a jamais été bien rangé dans mon esprit. L'avidité réglait mon sort, les bénéfices que j'en tirais me contentaient jusqu'aux prochaines envies. Cet homme, qui n'avait sans doute pas vécu le quart de mes expériences, m'avait pris le coude et ce simple geste avait suffi pour ranger ma tête. « Me voilà bien, me voilà bien, me voilà bien, » me suis-je dit. « La route est là, mes autres pas iront où existent, peut-être, un autre choix. » Adieu l'ami. 9 ans passèrent. Le vieil Indien, perclus de rhumatisme, pleurait de douleur en silence comme pour ne pas en éveiller d'autres, puis décida qu'il était venu le temps. Il s'euthanasia dans les bras d'un grizzly qui n'appréciait pas ou ne comprit pas ses gesticulations. L'animal l'expédia dans l'au-delà en quelques coups de patte. L'Indien servit un instant de doudou, poupée de chiffon désarticulée, secouée du nord au sud par la bête en colère, sans doute frustrée de ne pas saisir la dramaturgie de l'instant. Le vieil Indien se mêla à la terre-mère, contribuant ainsi à l'ordre des choses. La terre qui fut son seul véritable amour, sa seule motivation pour continuer à suivre un chemin d'incertitude. La terre n'avait pas de plan comptable, mais elle souffrait de nos calculs. Dans le Saskatchewan, un gentleman farmer, il se présenta ainsi, m'avait chargé à la sortie de Regina à bord d'un immense pick-up tout de chrome vêtu. Il m'avança de quelques dizaines de miles, en réalité d'un bout à l'autre de son immense propriété. Saskatchewan, ce nom a toujours été magique pour moi. Je trouve qu'il sonne bien, mais je le savoure bien plus que je ne le prononce. Il existe tant de noms laids. Il griffe, colle au palais, que c'est un plaisir d'en rencontrer un doux, un qui résonne bien à propos. Tant d'années ont passé. La magie reste comme un souvenir qu'il ne faut pas perdre tant il se lie aux sources de notre vie. Saskatchewan. Essayez voir. Alors ? L'homme m'avait expliqué la vie doctement. Se prenant en exemple, il me donna de bonnes pistes pour me ressaisir. À mon âge, il était temps. Tandis qu'il parlait comme un homme que l'on écoute, que l'on n'interrompt pas, je l'observais du coin de l'œil. Propre sur lui, rasé de près, les maxillaires proéminentes avec cet air décidé qui annonce la couleur à l'adversaire potentiel. Il était beau comme un cow-boy de magazine vantant un produit phytosanitaire. Il m'avait démontré par l'exemple à quel point j'avais été con, inconséquent pour descendre aussi bas. J'opinais du chef sans jamais penser à le contredire. Après tout, il savait. Moi, je ne savais plus, alors j'écoutais la leçon, puis le remerciais pour ses précieux conseils. Avant de nous quitter, lui convaincu par son acte de bienfaisance, moi déçu comme chaque fois qu'un monologue est la seule issue, il m'avait parlé du cours du blé, du seigle et de l'orge, puis des difficultés qu'il avait dû surmonter l'hiver précédent. À aucun moment il ne me questionna. Pour lui, les jeux étaient faits. L'habit fait le moine, la fonction la qualité, le titre le respect, le fric le reste. Je n'étais qu'une ombre installée à ses côtés, un petit être domestique qui ne savait pas. Je profitais de sa générosité, comme tant d'autres. D'ailleurs, il me refila $50 pour me nourrir, pas pour boire. J'avais été probablement beaucoup plus riche que cet homme, peut-être l'étais-je encore. Ce sentiment d'être rebaptisé en un clin d'œil me mit mal à l'aise. Comment avais-je pu me fourvoyer ainsi? Croire en un dieu sans mesure, me laisser guider par ma Rolex, penser qu'une breloque m'aiderait à juger. Imaginer que l'existence était un décor, qu'une femme, putasse ou non, avait la classe nippée en haute couture, qu'une Ferrari faisait l'homme, que la Valtaille n'avait qu'à faire comme moi, au lieu de geindre les bras ballants à ne rien foutre. Le gentleman farmer m'avait dit « Réfléchis à ce que je t'ai dit, le plus sérieusement du monde ». En d'autres temps, je l'aurais envoyé bouler, mais je l'avais remercié pour le chemin tracé. Je pensais qu'il lui faudrait bien du courage pour chasser tous les sparadraps du capitaine Haddock dont il s'était couvert. Peut-être la famille devrait attendre plusieurs générations pour laver tous ses a priori, faire place nette, s'ouvrir à d'autres, s'éparpiller, vivre ailleurs ou couper son cordon. Car j'étais, à ce moment de l'aventure, persuadé que l'avidité générait du cannibalisme, te bouffait la tête, le cœur et les os, que le jour du miroir ne pourrait peut-être pas te sauver du salaud. Échec, réussite, pour qui, pourquoi, réalité, raison, une question d'angle peut-être bien. Une seule pensée dure une journée, et parfois 1000 ans. Mais c'est toi le lecteur. Mes premières nuits dans les fossés furent de véritables épreuves. Je n'avais plus vraiment ni la forme ni l'âge requis pour ce type d'exercice. Malgré un équipement bien pensé, je caillais comme jamais, grelottais craintif, m'attendais au pire. Je m'imaginais claqué au milieu de nulle part et la trouille me gagnait au point qu'il m'était impossible de m'endormir. Je me souviens de ces nuits sombres, hantées d'ombres hostiles à me grincer jusqu'aux os et de mes larmes aussi. J'avais beau me dire et me redire des choses plus téméraires, la trouille paralysait mes gestes. Aller au-delà de mes mots était impossible. Prendre plaisir à repousser mes limites, y tout. Je découvrais, penaud, que l'homme que je croyais être avait en lui sa part de faiblesse, ses lâchetés pour lui courber l'orgueil. En général, le gîte m'était presque toujours proposé. Je pouvais trouver d'autres solutions, sursoir à la belle étoile les jours sans, mais j'insistais. Effrayé à l'idée de perdre ce reste de volonté que nous devrions tous avoir face à l'adversité sous peine de se noyer, se perdre, s'oublier, impuissant. Petit à petit, en serrant les dents, je fis quelques progrès sans pour autant chasser ma crainte du tout au tout. Aperçu de loin, le van rose et fleuri venait vers moi pour me prendre. Pas de doute. Mon pouce s'était à peine levé et je savais que le véhicule viendrait stopper à mon niveau. Il le fit. Je ne pensais pas alors que j'allais vivre un de mes meilleurs souvenirs. De ceux qui s'imprègnent, reviennent vous rassurer quand le temps se couvre. Je ne le pensais pas, mais je le pressentais. D'un signe de tête, elle m'invita dans son char décoré. Assis confortablement, presque noyé dans un large siège, j'écoutais mon chauffeur. Elle manquait de sommeil et m'avait d'abord pris, me dit-elle, comme agent de sécurité. Fort de ma mission, il ne m'était pas venu à l'idée de l'interrompre. J'écoutais sagement en scrutant les dangers routiers. Elle venait des Grands Lacs. Partie l'avant-veille, elle envisageait rejoindre Edmonton le surlendemain où sa jeune sœur habitait. Pas vraiment ma destination première, pas la dernière non plus. Pourquoi pas, m'étais-je dit, d'autant qu'elle m'avait proposé de partager son van pour les nuits à venir. En tout bien tout honneur, imaginais-je, quoiqu'elle n'avait rien précisé à ce propos. Et donc, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Les premières heures, elle m'avait parlé longuement de son métier de garde forestier, de son autonomie dans le travail, de cette forme de liberté qu'elle y trouvait, de ses rencontres avec les éléments. Comme souvent, le hasard avait décidé. Hormis ses souvenirs d'enfant quand ses parents lui infligeaient des week-ends dans les bois, à dormir souvent à même le sol dans les cabanes sommaires, alors qu'elle lui préférait jouer, rêver ou papoter avec des copines, rien ne la prédestinait à ce métier. De toutes les pistes qui se croisent sans raison apparente, laquelle choisir? Qui se charge de la direction? Celle-là plutôt que l'autre, hasard ou destinée? Trop souvent égarés d'aller-retour, les évidences perdent leurs convictions. Pourtant, de petits signes nous disent qu'il ne faut pas renoncer à tout, que le poids des routines nous mène à la tristesse, au bout du bout à l'amertume, au regret. La somme de nos itérations, de nos mécanismes reproduits avec application, nous étouffe, nous fait payer le prix de nos pantoufles. Les illusions tissent sans cesse de nouvelles toiles, les pièges sont des multitudes de non-choix, de routes tracées par d'autres. Alors, pour ne pas sombrer dans l'ennui, nous devons prendre un fil après l'autre, quitte à se perdre. C'est le prix à payer pour vivre encore, respirer des souffles nouveaux, s'enchanter d'un rien, sourire à la vie, toujours. Nous en étions là de nos réflexions quand de petits signes nous incitèrent à croiser nos désirs. Tous deux, frappés d'une longue abstinence, nous avions fêté les plaisirs sans retenue, sans a priori, sans complexe. Un coït enfin débarrassé des projections glacées, longuement trafiquées, qui nous font plus rêver une fois l'âge avancé, les premiers essais consumés. Puis nos corps sonnèrent la retraite. Elsa voyagea dans ses rêves, alla les rejoindre tandis que je lui tenais la main pour la garder encore, mais ne pas la retenir. C'était la première fois que je ne m'étais pas regardé copuler. Je n'avais pas cherché les yeux de ma partenaire pour me sentir à la hauteur, je n'avais pas guetté ses soupirs un peu plus prononcés ou ses petits cris annonciateurs de ma réussite à la tâche. J'avais donné et j'avais joui comme jamais, ou du moins avec le sentiment de vivre un acte aussi précieux qu'unique. Un espace universel. Il nous était dédié. Je m'étais senti autre, mon double, jusqu'alors invisible, se révélait enfin. Un immense plaisir, exempt de cette embarrassante autosatisfaction, sans limite, du mal inachevé. Que le lecteur me pardonne, les scènes croustillantes ne sont pas fournies. Son imagination devrait suffire. S'il en manque, qu'il consulte un spécialiste ou un ministre écrivain. Au final, nous avions mis 6 jours pour rejoindre sa sœur Edmonton. 6 jours. Et devenir l'un comme l'autre plus riche. Rien de plus délicieux qu'un temps qui roule de délice en délice sans rien attendre ni espérer. Nous nous étions dit adieu sans amertume, en emportant un goût de l'autre pour qu'il nous accompagne jusqu'au bout.
Il s'efforce de ne pas s'endormir. Je lui en sais gré. Ses traits tirés prouvent qu'il doit faire un gros effort. Je ne sais pas trop pourquoi il m'inspire confiance. Il me fait la conversation, cause de tout sauf de lui. Avec une certaine habileté, il répond à mes questions en quelques mots sans entrer dans le moindre détail. Cette façon partielle me surprend quand elle ne m'irrite pas. Ainsi, il vient de nulle part, car, me dit-il, l'endroit n'a guère d'importance, ou bien, avant c'était avant. Et moi, j'écoute agacé. Je crois comprendre que sa petite affaire a mal fini. Rien d'autre ne vient, alors j'abandonne pour parler de moi sans grande conviction. Au moins, je ne m'endors pas. Chacune de mes phrases est ponctuée par un grognement affirmatif façon psy et, avant de lui imposer d'autres tirades sur ma vie, mon œuvre, je lui reproche son attitude. C'est frustrant ce sentiment de parler dans le vide. Il me regarde avec attention, apparemment surpris que je puisse me plaindre. Le voilà qui s'excuse. Je le sens sincèrement désolé. D'ailleurs, il finit par m'accorder quelques-uns de ses secrets. Non que j'en sois friande, mais je préfère situer les individus dans un environnement. Ça me rassure. Tout est classique, en fait. J'en déduis un amour contrarié, un mariage raté, un enfant qui vous rejette mais pas de revers économique. Je crois qu'il a besoin de vivre autre chose à l'écart des contingences habituelles. Tout cela raconté sobrement, en phrases courtes, fermées pour que je ne sois pas tentée par des questions complémentaires. Je me contente de ce qu'il me donne, décide de lui foutre la paix. Je vais le croire le temps du voyage. Tout devient facile, rassuré, d'autant que il a le petit quelque chose qui le différencie. J'ai souvent l'envie qui diffère. En tout cas, il ne laisse rien paraître. Calme, tranquille, ses gestes sont lents, précis. Il n'a rien à me prouver et je lui en veux presque pour ça. Paradoxe de ma féminité qui parfois frôle des incongruités liberticides. Au bivouac, sans un mot, il s'empare de ma main avec une tendresse infinie. Il prend le temps de me faire du bien, de m'apprivoiser sans chercher sa performance. J'adore. Il scrute mon désir, en prend connaissance, vit chaque centimètre de ma peau et aime ce corps que je lui tends. J'aimerais continuer toute la nuit, mais la route nous a épuisés. Nous nous endormons, collés de sueur, mêlés d'odeurs, relâchés, apaisés, prêts aux rêves de coton. Du coup, la route s'allonge. Je prends les chemins d'écolier, m'attarde jusqu'à faire des crochets improbables pour repousser le moment des adieux juste un peu plus loin, au bout de notre attirance, mais avant la moindre lassitude. Il ne parle presque pas, refuse une intimité autre. Son temps de parole s'épuise en quelques phrases. Je n'ai pas l'impression que le verbiage, hors les formules de politesse, lui soit nécessaire. Je suppose qu'avant, il a connu l'excès, le besoin de dire, de redire comme disait ma mère avant de me coller une baffe. En tout cas, sa langue ne dérape pas et en quelques jours, le bilan devient mitigé. Certes, nos corps s'accordent, mais le reste, secret défense, m'angoisse. À n'en pas douter, il n'a pas l'envie de partager autre chose que ces rudes délicieux. Je le sens tellement triste au creux de son âme qu'il m'est impossible de lui en vouloir.